Chronique d'un siècle. Une émission culturelle présentée par Jeanne Boursier sur Radio Boomerang 89.7 FM. Bonjour à toutes et à tous. Jeanne Boursier pour Chronique d'un siècle sur Radio Boomerang 89.7 FM. Et si aujourd'hui nous revenions à une chronique légère ? Voici donc Les Potins d'abord de Suzanne Gabriello sur la musique des Copains d'abord de Georges Brassens.
Ce n'est pas pour les gros titres en noir que j'achète mon journal du soir, ni pour la rubrique des sports. Je parcours d'un vague regard la plus grande part de mon canard et je lis les potins d'abord. C'est fluctuant, mais c'est nature, cette sorte de littérature. Vivants, pas des morts. En se moquant de l'actualité, dans le seul but de l'égayer, ce qui fait battre des records au potin d'abord. Le potin ne fait pas de bruit, on le chuchote, on en sourit et puis on l'oublie sans remords. On peut dormir loin des passions qui font déchirer les nations en lisant les potins d'abord. Les guerres, les crimes, les accidents, c'est commercial et ça se vend à la criée. Toute voile dehors. Le drame n'est pas un mets choisi pour aiguiser mon appétit. Je tourne la page et je dévore les potins d'abord. Supposons qu'un grand personnage occupe les premières pages, figé dans un même décor. Dans la rubrique que je préfère, on le retrouve aux Folies Bergères, proclamant d'une voix de stentor, vos potins d'abord. Lorsque cinq colonnes à la une décrivent notre avenir dans la lune, ça me semble un coquin de sort. Et je redescends sur la terre, retrouver une certaine commère qui va m'offrir franco de porc, les potins d'abord.
Quel mot amusant, potin. Il remonte au XVIIe siècle et est issu du nom normand potine, qui signifie chaufferette. Comment en est-on arrivé à sa signification actuelle ? C'est très simple. Les femmes avaient l'habitude, lorsqu'elles se réunissaient l'hiver pour causer, d'apporter leur potine, c'est-à-dire leur chaufferette. Et c'est connu, les femmes aiment potiner. Le potin, c'est le commérage, les propos malveillants, les chroniques plus ou moins scandaleuses des personnalités en vue. C'est aussi le on-dit, les ragots, les racontards. Cela est aussi ironiquement dénommé le quart d'heure chrétien. Bref, ce n'est certes pas très brillant, mais qui n'aime pas potiner ? En attendant la Révolution, quel meilleur dérivatif à notre colère que de potiner sur celui qui se permet de nous traiter de rien ? Et voilà, quand on parle de lui, on doit écouter les goguettes.
Alors que Luc Ferry semble avoir perdu tout espoir,
seul dans son palais, un homme affronte les éléments, garde le cap et regarde l'horizon avec inquiétude et gravité. Quand je lis les journaux, le matin à l'Élysée, et que ma popularité ressemble à celle de Vauquier, quand ceux qui ne sont rien ne pensent qu'à leur fin de mois, je rêve dans mon coin à la fin de mon mandat. Faut que je tienne. Quand je vois tous les samedis des milliers de gilets jaunes envahir le pays, j'envierais presque Carlos Ghosn. Je peux même pas skier tranquille, faut encore que je me farcisse les Black Blocs à Paris et les petites vieilles à Nice. Faut que mes petites phrases me reviennent comme un boomerang, je me dis qu'il faut que j'écrase, que je tienne surtout ma langue, que je me tienne à carreau, que j'arrête d'insulter ces connards de prolo. Et merde encore raté. Faut que je tienne. Ne m'aide pas à garder mon sang-froid. J'y ai pas chez Hanouna 2h30 de yoga. Gouverner que c'est rude, je commence à avoir un doute. J'ai tellement pas l'habitude que je tombe en burn-out. Avant que je tienne.
Les réseaux sociaux sont les lieux des potins, mais que la jeunesse n'aille pas s'imaginer qu'il a fallu l'invention de Facebook et compagnie pour se régaler des commérages qui circulent dans les coulisses du pouvoir, du spectacle ou des médias. L'envie de critiquer une société dans laquelle on vit mal remonte à l'Antiquité. Lisez ou relisez Aristophane, Juvénal, et vous verrez qu'on n'a rien à leur envier. De même, dans les siècles qui suivirent, le roman de Renard, Rabelais, Boileau, les philosophes des Lumières, le XIXe siècle, et même le XXe siècle de ma jeunesse, qui laissait s'exprimer les chansonniers pour la plus grande réjouissance du peuple, qui s'amusait des potins du pouvoir.
Commençons par une conférence internationale, il y en a au moins une par semaine.
La grande conférence de sécurité européenne qui s'est réunie en Finlande, à Helsinki, qui comprend les 34 pays européens, tous sont là. Et il y a le Vatican. Alors on se demande un petit peu ce que vient faire le Vatican dans une conférence où on va surtout parler de la sécurité et de la réduction des armées. Et puis finalement, on oublie quand même que le Vatican est la première nation militariste du monde, en proportion, j'entends, étant donné que l'armée du Vatican comprend, si je ne m'abuse, 70 gardes nobles, 75 gardes suisses, 500 gardes palatins, et 150 gendarmes pontificaux, ce qui fait à peu près une armée de 800 soldats. Et il y a inscrit au Vatican, dans les statistiques, il y a exactement 520 citoyens. Ce qui fait que le Vatican est le seul pays au monde actuellement qui ait un nombre de militaires qui soit supérieur au nombre total de ses habitants. Et ça, croyez-moi, c'est un miracle, vous savez.
Il y a une grotte en France On ne fait pas de miracle, mais qui est une très très belle grotte.
Oui, c'est Lascaux, oui. Oui.
On a vu qu'elle était menacée. On a trouvé une solution ingénieuse, mais
Ils ont trouvé une solution extraordinaire pour Lascaux. Ils ont décidé de construire à côté de la grotte de Lascaux une fausse grotte dans laquelle on va reproduire exactement les aspérités de la vraie et les peintures qu'il y a sur la vraie. Alors on a commencé d'ailleurs à la creuser il y a à peu près 15 jours, et alors ils l'ont creusée à la baramine. Alors les savants sont venus dire, attention, si vous commencez à creuser à la baramine, ça fait des fissures dans la vraie. Alors les ingénieurs ont dit, non, on ne peut pas creuser une grotte sans employer de dynamite. Alors ils continuent les travaux, et on en est arrivé à cette chose, ce paradoxe qui est assez étonnant, c'est qu'on construit une fausse grotte pour protéger la vraie, et il n'est pas impossible que quand la fausse grotte sera finie, la vraie soit très effondrée.
Oui, c'est assez joli. C'est un peu plus futile, mais enfin, c'est quand même digne d'être souligné. Vous avez vu ce qui se passe dans l'armée britannique. C'est une révolution.
Ah, c'est une énorme révolution, car l'armée britannique abandonne le short, le fameux short de l'armée des Indes, qui était le symbole de l'armée des Indes britannique. Et elle abandonne le short, et le porte-parole a annoncé cette nouvelle assez triste pour les Anglais en disant... Nous avons pris cette décision parce que finalement nous nous sommes aperçus que le genou n'était pas la partie la plus attrayante de l'homme. Alors on se demande un petit peu, évidemment, ce que c'est que la partie la plus attrayante de l'homme. C'est peut-être pas le genou, d'ailleurs j'en sais rien personnellement, il faudrait faire un référendum auprès des dames. Mais quand on le saura, je me dis que si l'armée britannique fait des uniformes où la partie la plus attrayante de l'homme sera mise en évidence... Il y aura quand même du monde à la relève de la garde à Buckingham Palace.
Côté États-Unis, c'est bien rare. Si une semaine, il ne nous vient pas quelques lumières de là-bas. Ce sont des précurseurs dans tous les domaines.
Ah, mais là, ils nous ont vraiment pris de vitesse sur un domaine où nous, on était indiscutablement les premiers dans le monde, puisque vient de s'ouvrir aux États-Unis la première clinique sexologique. C'est une clinique où on soigne les maris américains qui sont atteints, enfin disons les mots franchement, de frigidité, d'impuissance et de précipitation.
Qu'est-ce qu'on fait?
Alors, le traitement est très simple, on les garde 20 jours à peu près, on leur fait des cours techniques avec des dessins, des projections de films.
Seulement la théorie?
Au départ, la théorie. Et il paraît que ça se passerait très bien parce qu'ils prétendent qu'au départ, les chirurgiens ont dit ça c'est formidable, ce genre de truc, c'est comme le vélo, quand on a pigé le truc, on l'oublie pas. Mais après, on passe les 10 derniers jours à la pratique. Alors on fait des cours, on fait des travaux pratiques, il y a des ébats sous la direction du médecin-chef qui dit « Non, recommencez, c'est pas ça, revenez en arrière, on prend tout, etc. » Et ça ne se fait pas avec les époules légitimes qui n'ont pas le droit d'entrer dans la clinique, ça se fait avec des femmes qui viennent de l'extérieur, mais des femmes du monde, je veux dire, des femmes qui, charitablement, viennent apporter leur concours pour sauver ces malades. Et je trouve ça... Et alors, attention, charitablement, elles prennent quand même 250 francs par séance. Alors... Bon, je veux dire, ils n'ont rien inventé dans ce domaine, parce que nous, des cliniques comme ça, on en a, il y en a plein à Paris. Je veux dire, à ce compte-là, Pigalle est un immense ensemble hospitalier. Mais là où je trouve que les Américains sont formidables, c'est que ce sont les premiers au monde qui aient quand même réussi à se faire rembourser ça par la Sécurité sociale.
C'était Jean Amadou, en 1974, dans une émission de Philippe Bouvard. Les magazines étaient aussi, dans ma jeunesse, une source inépuisable de potins en tout genre. L'un des plus cotés en potinage était Jour de France, encore dans les kiosques aujourd'hui. Ce magazine était spécialisé dans les échos de la vie des célébrités qui se prennent pour des stars internationales, de la vie des reines et des princesses de pacotille qui pensent faire encore rêver le peuple. Depuis 1954, cette revue, malgré un arrêt de près de 20 ans, a pour unique but de faire croire au peuple que ces sommités du néant ont des vies passionnantes, trépidantes, altruistes, éreintantes, parfois même douloureuse. Dois-je rappeler qu'elle fut fondée par Marcel Dassault, le richissime vendeur d'armes. Les ancêtres de ce genre de revue sont nés à la fin du 19e siècle. Ils s'appelaient l'Illustration et l'Excelsior. Cette presse people repose essentiellement sur des photos achetées à prix d'or à des paparazzi ou en français moustiques bruyants. À côté de Jour de France, on a Paris Match avec son fameux le poids des mots, le choc des photos. Et puis Gala, Voici et j'en passe. Tous reposent sur des rumeurs, des scandales, des secrets. On vend l'intimité des personnalités connues ou bien l'horreur d'un assassinat ou d'un massacre. Dans les magazines dédiés exclusivement aux femmes, comme Elle, Marie-France, Marie-Claire et bien d'autres, les potins se font conseil en beauté, en amour, en psychologie. Et l'on trouve là matière à se remettre, en tant que femme, entièrement en question. Voici ce que m'avait inspiré, il y a quelques années déjà, ces magazines qui envahissaient alors les salles d'attente des médecins et des hôpitaux. Attendant l'heure de ma collation de 16 heures, un yaourt aux fruits et à 0% de matière grasse, indispensable à l'équilibre de mon métabolisme d'obèse, je feuillette négligemment un de ces nombreux magazines féminins spécialement édités pour notre bien-être et notre bien-pensée, à nous les femmes. Toutes les solutions à nos problèmes psychologiques, physiologiques, esthétiques et pédagogiques, à nos problèmes de femmes mariées, paxées, concubines, maîtresses, célibataires, divorcées, hétérosexuelles, homosexuelles, à nos problèmes de mère, de bébé, de petits, d'ados, d'adultes, en mal d'enfant, galère d'adoption, à nos problèmes de libido, d'orgasme, de mari à éjaculation précoce, de mari impuissant ou trop puissant, au sexe trop petit, trop long, trop gros, à nos problèmes de femmes trompées ou trompantes. Mais ces magazines nous apportent aussi l'inquiétude de ne pas avoir encore trompé son homme, de ne pas avoir à 50 ans le corps parfait de Demi Moore, de n'être pas un cougar, une hit girl, de n'être ni hype, ni easy, ni écolo, ni hyperactive, de ne pas avoir le look dandy chic, urban chic. Tout cela et toutes ces petites choses auxquelles on ne pense pas et qui sont essentielles à l'équilibre de notre vie sont, à notre grand soulagement, analysées, disséquées, expliquées, prises en charge par des psychologues, des psychanalystes, des gynécologues, des endocrinologues, des dermatologues, des sexologues, des chirurgiens plasticiens, des coachs, des couturiers, des maquilleurs, des coiffeurs, des esthéticiennes, des nutritionnistes, des informaticiens et des stripteaseuses, des péripatéticiennes repenties, des stars du X, des stars tout court, qui toutes nous offrent leur vie difficile, parfois exemplaire, pour nous encourager à nous réaliser. De haute lutte, nous avons arraché le droit de vote, le droit de posséder un chéquier, de travailler, de choisir notre vie sexuelle, d'avorter, d'avoir des enfants lorsqu'on le désirait, le droit d'être autre chose qu'un objet de désir ou de célibat. Flora Tristan, Séverine, Simone, Françoise, les sœurs Goult et les autres se sont sacrifiées pour nous ouvrir le chemin. Assumons donc notre indépendance et soyons femmes jusqu'au bout des ongles. Je tombe par hasard sur un article tentateur. Un joli corps sans gym ni régime. Cela m'évitera-t-il les semaines de division, multiplication, pesage, sport pour retrouver un corps de déesse? Plus mon corps retrouvera sa sensualité et donc sa sexualité, plus mon mari me fera l'amour. En effet, le problème des obèses vient de la couche de graisse enrobant leurs zones érogènes, d'où leur difficulté à jouir, mais aussi à bouger. Cet article peut certainement sauver un grand nombre de couples en mal de sexe. Cet article ne s'adresse évidemment qu'aux femmes. C'est notre petit jardin secret que l'on partage seulement avec sa bonne copine. Je suis abasourdi par les miracles accomplis. Tout d'abord, les seins sans lesquels une femme n'existe sexuellement pas. Il faut impérativement switcher son bonnet A contre un C pour que nos seins soient plus plumpy et que notre décolleté soit érotisé. Pour cela, plusieurs solutions. Les implants de toutes formes. Il suffit de demander à notre homme de lit quelle forme il préfère et l'on est sûr de faire un heureux. Les injections d'acide hyaluronique, particulièrement réservées aux seins un peu vidés qui veulent retrouver un bonnet pulpeux, conseille le docteur Sarfati qui, honnêtement, met également en garde sur cette technique expérimentale et sur la radio-opacité du produit, empêchant ainsi la lecture de mammographie. Tout cela a un coût entre 3000 et 6000 euros. Je regarde mes seins encore pulpeux dans leur bonnet D. Au téléphone, mon mari m'a avoué rêver de mon décolleté érotique et je souris. Viennent ensuite les bras. Il est vrai que l'obèse règle le problème en portant été comme hiver des manches assez longues pour cacher le relâchement de ses triceps. Mais l'électrostimulation, la carboxythérapie, la lipolyse laser ou le lifting sont bien tentants. Malheureusement, les petits inconvénients, finances, répétitions, injections sans études médicales préalables sont plus dissuasifs. Au fil des pages, mon étonnement s'accroît. L'on peut réellement tout refaire. Nous pouvons toutes être des cougars, femmes à la quarantaine bien sonnées, qui vivent avec un homme plus jeune qu'elles. Et moi, l'obèse, sans aucune communauté de corps ou d'esprit avec Demi Moore, j'appartiens, non sans fierté, à ces privilégiés que beaucoup de congénères envient. Mon mari a 35 ans, j'en ai 50, et nous nous aimons depuis 15 ans. Il faudrait que j'apporte mon témoignage. Taille fine, fessier de rêve, cou parfaitement tendu, peau de pêche pulpeuse, galbe idéale des jambes, hanches de rêve, yeux de biche sans poche. poche, sans pattes d'oie et sans rides du lion sont à notre portée, moyennant, certes, de gros sacrifices financiers. Les études de neuropsychiatrie de notre petite dernière, par exemple. Mais quelle joie de voir le regard concupiscent d'un beau jeune homme se poser sur soi. Ce texte fut écrit il y a 13 ans déjà. Et aujourd'hui, de nouvelles technologies, de nouvelles appellations sexuelles sont apparues. Je ne suis donc plus à la page. Mais en fait, le fond de commerce de ces magazines est toujours le même. Les potins peuvent revêtir tellement de formes. Ainsi, les lettres de Madame de Sévigné, que sont-elles d'autres que les potins de la cour? Et les historiettes de Talmant des Réaux, qui a laissé tous les petits secrets de la cour de Louis XIII, et le duc de Saint-Simon, mais la liste serait longue. Je voudrais pourtant m'arrêter sur une femme du XIXe siècle, Delphine de Girardin, l'épouse d'Émile de Girardin, le journaliste, homme politique et premier grand patron de presse. Elle était belle, intelligente, cultivée et écrivait des chroniques que craignaient les femmes et les hommes en vue. Théophile Gautier disait d'elle « Son jugement était attendu et estimé. Avec quelle grâce elle maniait l'encensoir d'or, sachant y mettre toujours le parfum préféré et ne le cassant jamais sur le nez de l'idole. Quel divin plaisir c'était d'être loué par elle. Lamartine, Victor Hugo, Balzac le savent, et d'autres qui le méritaient moins sans doute. » Ces chroniques ont été réunies dans un ouvrage qui s'intitule « Lettres parisiennes ». J'ai choisi celle dans laquelle Delphine de Girardin décrit les achats pour les étrennes, aujourd'hui pour Noël. En effet, au XIXe siècle, l'on donnait les cadeaux pour les étrennes et non pour Noël. Et dans cette lettre, elle se réjouit aussi de la disparition d'un canapé, le pâté, qui fut à la mode. Ce qu'il y a de plus étrange dans les rues, c'est ce mélange d'activité et de silence. On marche vite pour se réchauffer, et puis chacun tient à la main un paquet quelconque. Les uns portent un âne en carton, dont les oreilles indiscrètes percent le papier gris qui les enveloppe. Ceux-ci, d'un air très sérieux, emportent un grand cheval de bois. Celui-là enlève une poupée, cet autre un chien ou un mouton. Et tous se hâtent et vous heurtent en passant. On dirait que le joujou qui les charge est attendu par un être qui ne peut vivre sans lui. Les boutiques sont encombrées. On ne peut ni entrer chez Sus ni en sortir. Si quelque objet vous séduit, on vous répond « il est vendu ». Alors on vous offre d'un air gracieux quelque chose de laid, d'abominable, dont personne n'a voulu. Et vous achetez à la hâte un objet qui vous déplaît pour sortir de cette foule où par malheur vous avez reconnu beaucoup d'amis. Car il y a encore une sorte de pudeur dans le choix des étrennes qu'on veut offrir. On n'aime pas que les indifférents le connaissent et l'apprécient, et qu'une personne puisse dire à la femme à laquelle vous aurez offert une écritoire ou un album « Oh, je lui ai vu acheter chez Giroux, il l'a payé 75 francs ». Les pâtés ne sont plus de mode, on garde ceux qu'on a, mais on n'en fait plus. Le pâté, non pas celui de Strasbourg, ni celui de Toulouse, ni celui de Chartres. Ceux-là seront toujours en crédit. C'est une dignité inamovible. Le pâté en question est cet amas de divans qui se trouve dans tous les grands salons frappés d'anglomanie. 4 divans réunis par un même dossier, espèce de quadrille d'ennemis où les 8 danseurs assis se tournent le dos. Nous ne regrettons point cette mode malgré ce qu'elle avait de fashionable. Rien de moins sociable. Vous ne pouviez dire un mot à droite qu'on ne l'entendît à gauche. Et pourtant, la conversation générale était impossible. Le moyen de causer ensemble quand on ne se voit pas. Vous n'étiez jamais seul et jamais plusieurs. Ce n'était pas toujours celui à qui vous parliez qui vous répondait. Et puis si vous aviez un mot à dire à une personne placée de l'autre côté du dossier, vous vous trouviez entraîné malgré vous à des attitudes beaucoup trop naïves, à des poses qui faisaient beaucoup trop valoir vos gracieuses proportions. La morale gagnera sans doute à l'abolition du pâté. Les potins, ce sont aussi les commérages des commères, celles par qui arrive le scandale, la mauvaise réputation, celle qu'a chanté Brassens.
Au village sans prétention, j'ai mauvaise réputation. Je me démène ou je reste quoi? Je passe pour un je ne sais quoi. Je ne fais pourtant de tort à personne en suivant mon chemin de petit bonhomme. Mais les braves, j'en aime pas que l'on suive une autre route que. Non, les braves, j'en aime pas que l'on suive une autre route que. Tout le monde médit de moi, sauf les muets, ça va de soi. Le jour du 14 juillet, je reste dans mon lit douillet. La musique qui marche au pas, cela ne me regarde pas. Je ne fais pourtant de tort à personne en n'écoutant pas le clairon qui sonne. Mais les braves, j'en aime pas que l'on suive une autre route que. Non, les braves, j'en aime pas que l'on suive une autre route que. Tout le monde me montre au doigt, sauf les manchots, ça va de soi. Quand je croise un voleur malchanceux, poursuivi par un cutéreux, je lance la patte et pourquoi de taire, le cutéreux se retrouve par terre. Je ne fais pourtant de tort à personne en laissant courir les voleurs de pommes. Mais les braves, j'en aime pas que l'on suive une autre route que. Non, les braves, j'en aime pas que l'on suive une autre route que. Tout le monde se rue sur moi, sauf les cul-de-jattes, ça va de soi. Pas besoin d'être Jérémie pour deviner le sort qui m'est promis. S'ils trouvent une corde à leur goût, ils me la passeront au cou. Je ne fais pourtant de tort à personne en suivant les chemins qui ne mènent pas à Rome. Mais les braves, j'en aime pas que l'on suive une autre route que. Non, les braves, j'en aime pas que l'on suive une autre route que. Tout le monde viendra me voir pendu, sauf les aveugles, bien entendu.
Aujourd'hui, les potins passent par les réseaux sociaux et très souvent sont classés dans la catégorie fake news. Et les lecteurs sont devenus des complotistes. C'est navrant. L'homme au masque de fer était le frère jumeau de Louis XIV. Potin, qui s'est transformé en énigme de l'histoire. Le fils de Louis XVI, le futur Louis XVII, n'est pas mort à l'âge de 10 ans. Potin, qui a donné naissance à des supercheries au XIXe siècle. L'assassinat du président Kennedy a suscité de nombreuses rumeurs. Aujourd'hui, les politiciens, par l'intermédiaire de leurs laquais, appellent cela des théories du complot. Et apparemment, le film JFK d'Oliver Stone repose sur l'une de ces théories. Je ne vous ennuierai pas avec la liste incroyablement longue et fastidieuse de tout ce qui est classé complotisme. Mais l'on comprend bien qu'il ne faut émettre aucun doute et n'écouter rien d'autre que la vérité d'État diffusée par les médias. Eh bien, quitte à passer pour une affreuse complotiste, je pense que les infos qui sont diffusées en boucle afin de nous lobotomiser ne sont que des potins, des commérages, des rumeurs, des bavardages et autres synonymes. Je prends au hasard la description de l'armée russe sur je ne sais quelle chaîne. C'était à mourir de rire. Le Gus qui en parlait avait fait le tableau de Gueux, et il faudrait croire pareille ânerie. En ce moment tragique des bombardements continus sur la bande de Gaza, des députés, des journalistes, là tout le monde s'y met, osent prétendre que le nombre des morts est exagéré. J'ai même entendu l'horreur des horreurs. Je vous laisse écouter Céline Pina, âme sensible s'abstenir.
Le crime contre l'humanité, le crime de guerre, c'est pas une question de degré, c'est une question de nature. Autrement dit, une bombe qui explose et qui va détruire et qui va faire des dégâts collatéraux tuera sans doute des enfants. Mais ces enfants ne mourront pas en ayant l'impression qu'en face d'eux, l'humanité a trahi tout ce qu'ils étaient en droit d'attendre. Là, ce qui est horrible, c'est d'imaginer ces enfants qui avaient 8, 9, 10 ans, ces femmes, ces... qui sont partis en emportant comme dernière image une image d'inhumanité, d'atrocité et de mépris de ceux qu'ils sont. C'est là où se niche le crime contre l'humanité, la négation absolue. Et je pense qu'on aurait intérêt à l'expliquer beaucoup plus, parce que sinon, le règne de l'émotion met des signes égaux entre toutes les victimes. La manière dont ils ont été tués, elle est différente et elle part de notre inhumanité ou de notre humanité.
Donc, c'est clair, la vie d'un enfant palestinien ne vaut pas la vie d'un enfant israélien, puisque l'enfant palestinien meurt sans comprendre. Je rappelle à cette « aucun mot ne me vient à l'esprit pour la qualifier » ignorent sans doute que les enfants palestiniens vivent depuis leur naissance avec la mort que leur réserve régulièrement Israël. Je voudrais terminer cette émission par un petit rappel. En 2003, Colin Powell a brandi une fiole d'anthrax en affirmant devant l'ONU et le monde entier que l'Irak détenait des armes de destruction massive. À l'époque, je faisais partie des complotistes qui refusaient de croire pareil mensonge et pareille ânerie. Quelques années plus tard, j'étais redevenue une bonne citoyenne puisque le mensonge des États-Unis avait été reconnu. Étrange cette émission sur les potins. Du plus léger au plus tragique. C'est cela, potiner, une sorte d'art de la conversation. Mais cette chronique doit se finir sur un mode léger comme le mot potin, sur un clin d'œil aux théories complotistes qui empêchent le rire, la dérision et l'humour. Je vous laisse donc avec Dieudonné dans son sketch Le Journaliste. Bonne journée à toutes et à tous. Au revoir.
Putain, c'est pas vrai, mais... Évidemment, l'autre con, là, sur l'autoroute, là. Putain, bretelle 14, c'est pas la bretelle 18. Ferme-la, t'as un con, ferme-la. Pas vrai, merde. Trois quarts d'heure pour faire 3 km, attends. C'est ça, Clichy-sous-Bois? Ouais. Je comprends qu'ils aient mis le feu, là, quand même. Bon, vous m'avez trouvé les émeutiers ou pas, les mecs, là? Putain! Qu'est-ce que vous avez foutu, merde? C'est quand même pas compliqué, un émeutier! Oh, mais n'importe! Tiens, prends le monsieur, là, venez! Viens là, toi! Mais si, il est très bien, là! Tête d'émeutier, ça. Bah, tu lui retires son balai, son truc fluo, et ça marche! Mets-lui une écharpe pour qu'on le reconnaisse pas, quoi! Ah, voir les envers avec son entreprise. Mettez-vous là, monsieur! Fabrique-lui un cocktail Molotov, quoi! Vas-y! Avec une bouteille, un chiffon, merde! Ah, poter les mecs, c'est pas vrai. Tiens, la dame, là, bonjour madame, venez ici, elle est très bien, elle aussi. Quoi? C'est un homme? Qu'est-ce qu'ils font en robe de chambre dans la journée? Quoi? Et c'est un roumain, c'est un tchèque, c'est quoi? Non mais la langue, il parle quoi? Ah, c'est français? Ouais, c'est plus un accent, ce niveau-là, tu rigoles ou quoi? 3 km de Paris, tu comprends plus rien. Mettez-vous là. On va le filmer. Si, si, il a une bonne gueule, il est horrible. C'est parfait. C'est... Les gens aiment ça. C'est... Ouais, ouais. C'est votre femme, là? Non, non, par contre, là, c'est trop, là. Non, attends. 19h, il y a des enfants devant la télé, monsieur. Hein? Non, non, restez pas là, madame. Partez, madame. Non, mais même là, tu m'emmerdes. Dégage. Marchez une heure dans la rue, comme ça. Hein? Voilà, dans une heure, tu reviens, moi, je serai plus là. Mais... Ah, ah, ouais, je m'en fous, j'en ai rien à foutre de ça. Allez, on y va. Ça va, les... c'est les gendarmes, ça? Bonjour, monsieur, ça va? Bonjour. Bonjour. Ouais, c'est pour les... ouais, c'est pour les... leur reportage pour ce soir, le France 3. Ouais, pour les émeutes, ouais, bien sûr, ouais. Bah oui, ça passe en direct. Bah, non, non, mais restez là, on va vous faire des plans de vous, comme ça. Vous êtes inquiets, vous regardez, comme ça. Hein? Si, si, les gens aiment bien, ça arrive en costume. Tiens, attends, elle est où, la stagiaire? Putain, Nadège! Tiens, là, regarde, là, regarde, là, regarde, regarde, Nadège! Putain, c'est pas vrai, merde! Eh ben quoi, mes fiches, je fais comment, là? On y va, là, on tourne! Les fiches! Quoi? J'espère pas. Ben c'est bon, José. Ben tu fermes ta gueule et puis c'est tout. Ben attends, j'arrive, qu'est-ce qu'elle me veut, mon patron? Ah, ben je t'emmerde, quoi? On est bon le son là, oh! Ah! Regardez l'autre. Ben ouais, je t'ai explosé les tympans, t'as qu'à être sur le coup en andouille. Je fais le son tout de suite, tac tac! Ben ouais, ben ouais. Non mais t'es un mauvais, de toute façon, allez on y va. Allez on y va, je m'en fous, ferme la tête. C'est bon là? L'émeutier, mettez-vous ici, monsieur l'émeutier là. Vous tenez le cocktail bien haut, comme ça vous êtes agressif. Hein. Et ne cherchez pas à communiquer avec moi. Hein? Voilà, vous la fermez. Allons on y va. T'es prêt toi? Allez, on la ferme une fois. Non, non, j'y arrive pas, je le tiens pas, je suis pas sur le coup. Là. Je suis pas sur le coup, je fais le con. Là. Bonsoir. Bonsoir. Non, on voit que je me fous de leur gueule. Attends. Ben ouais, mais l'autre qui m'énerve. Bonsoir, bonsoir. Et bienvenue en direct de Clichy-sous-Bois où des émeutes ont éclaté hier soir, tard dans la nuit. Nous sommes donc place Yuri Gagarine. Coup, 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 qu'est-ce que c'est que cette merde? Nadège, putain, qu'est-ce qu'on vous apprend en école de journalisme? Merde! Tu dois simplifier! Yuri Gagarine, c'est quoi cette merde? Mais oui, mais le français, il comprend rien! Je crois qu'il est sur une chaîne étrangère, il zappe! On le perd! Mais quand tu sais pas, tu mets Général de Gaulle, et puis c'est tout. Tout le monde le connaît, non? Si. Si. Tout le monde le connaît. Hein, même les jeunes, tout le monde sait quand même qu'il avait une émission de radio, là, pendant la guerre. Hein, qu'il a fait... Arrête, tais-toi, tais-toi. Non, mais j'ai envie de te caillasser, des fois. Excuse-moi de te le dire. Ah, ouais, laisse-la chialer, alors, elle apprend son boulot, quoi. Ah, ils m'en foutent, ça. Allez, on y va. Allez, on y va, on l'a fait en une fois. Hein. Mettez-vous à côté, monsieur. On y va. Bonsoir, bonsoir, et bienvenue en direct sur France 3. Donc, nous sommes à Clichy-sous-Bois, où des émeutes ont éclaté hier soir. Nous sommes donc place Léon Blum, en présence d'un dangereux émeutier qui a bien voulu nous répondre, le visage bien évidemment masqué. Alors, monsieur Idrissi, hein, Idrissi Obenga, hein, c'est votre titre. Wouah ! Il fait exprès ou quoi, le mec ? Je t'ai demandé de ne pas parler, putain ! Mais ça sera doublé au montage, quoi ? Vous vous appelez pas Idrissi, mais on s'en fout tout le monde. Vous vous appelez Michel, mais non, non. Mais non, pour le public, non. Vous vous appelez Idrissi. C'est comme ça, monsieur. N'allez pas m'apprendre mon boulot, je sais quand même reconnaître une personne qui s'appelle Idrissi. Quoi ? Vous n'habitez pas ici ? Et alors ? Moi non plus, j'habite pas là. Personne n'habite ici, certainement, vous savez. Hein ? Vous avez envie d'uriner, ben c'est ça le problème, ben, uriner, là. Sur la bagnole, là, on s'en fout, là. Hein, il a le trac, c'est rien, ça. Profites-en pour faire des plans de la cité, là. T'apprends tout ça, là, toute la merde, là, putain, c'est là, hein. Les voitures cramées, tiens, filme ça, filme. Elles sont pas cramées. Ça fera l'affaire, hein. Quoi? Non, on n'est pas là pour mettre en scène l'information, qu'est-ce que tu racontes, toi? Ouais, ben t'es caméraman, tu caméramines et tu la fermes, non, non, non. Non, mais attends, je rêve, attends, il y a des stagiaires qui t'écoutent, là. Hein, l'écoutez pas, les stagiaires, on n'est pas là pour mettre en scène l'information. Hein, nous, journalistes professionnels, on a une mission. Hein, et cette mission, tiens, notez ce que je dis, note. Avec ton doigt par terre! Notre mission à nous, journalistes, c'est quoi? Dis-toi, c'est pas une question, ferme-la. C'est l'objectivité. Moi, j'ai toujours été objectif, ok? Toujours. Et ça m'a coûté très cher. Mon objectivité. Ma première femme ne supportait pas mon objectivité. Chérie, tu m'aimes? Je dis objectivement, je ne sais pas. Elle dit oui, mais elle me dit tu aimes tes enfants. Je dis je n'ai pas à me prononcer sur ces personnes. Oh non, mais c'est clair qu'on a... En France, on n'a pas les moyens de faire une information de qualité, tu rigoles. Car l'équipe de bras cassés qu'on m'a donnée, n'a pas les moyens. Attends, c'est pas comme les Américains. Aux States, 20 ans d'avance. Moi, j'y étais, bien sûr, j'y étais, moi, le 11 septembre. Hein, ben, je suis arrivé le 14, mon vieux, j'étais là. Moi, ils m'ont mis une gifle. Hein, franchement. Dingue. Ah. Surtout nous, les observateurs internationaux, on a été chouchoutés. Hein. Tour en hélicoptère de tous les décors, t'aurais vu ça. 50 caméras en numérique dans tous les sens. Les dresseurs d'ours, les cracheurs de feu, t'avais tout le monde. C'était Hollywood. Résultat, ils ont fait péter l'ordinateur. Et c'est tout. Planétaire. Dans le monde entier, tout le monde voulait chialer, voulait la minute de silence. Et toi, je vais te dire, non mais attends, Bush remontait dans les sondages, il récupérait des puits de pétrole en Asie centrale, et tout le monde voulait casser du bougnoule. Même moi, je me suis fait avoir. Moi, bien sûr. Je me suis fait avoir. Mais on a un Marocain, nous, dans l'immeuble. Hein. Il habite en bas. Ah, tout le monde, on est descendu lui casser la gueule le soir même. C'est normal. Quoi? Ben le mec a les clés du lot à la poubelle. C'était évident qu'il allait se faire péter dans les poubelles. Hein. C'était... Oui, ben ce sont nos poubelles, on les a payées, t'es marrant, toi. Quoi? Ben Laden. Il n'a jamais existé, c'est un comédien américain. Je l'ai vu dans une série télé, le mort, mauvais. Non, c'est Smaïn qui a fait le con en refusant le rôle, crois-moi. Mais la réalité, mais tout le monde s'en fout de ta réalité, mon pauvre ami. Mais parce que si la réalité intéressait les gens, eh bien les gens éteindraient leur télé, regarderaient par la fenêtre, réfléchis.
Chronique d'un siècle. Une émission culturelle présentée par Jeanne Boursier. Sur Radio Boomerang 89.7 FM.